Oui,
Au oriental. Je répète totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. La RDC fête le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance le 30 juin 2016. 58 ans après l'accession à la souveraineté nationale et internationale, plusieurs réformes du secteur agricole ont été initiées par l'État et la toute dernière est la création en 2014 des parcs agro-industriels dont celui de Bukangalonzo. Selon plusieurs observateurs, le secteur agricole dans RDC a besoin d'être réformé dans son organisation, ses stratégies d'investissement et dans la qualité des hommes qui doivent l'animer. Quels sont, selon vous, les préalables pour réussir de manière durable la réforme du secteur agricole en RDC? 081-890-7315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission mise en onde par Jean-Claude Nsiala. Julie Feza Bongonda est au standard, Juir Lungembo est à la réalisation et Piro et la Mégie vous la présente sous la supervision de Martin Sebouzango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Lors de la tenue dans la province du Haut-Katanga, c'est à Lubumbashi, il y a 2 semaines de la 4e conférence des gouverneurs, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, est revenu en exhortant les gouverneurs des provinces de consacrer l'agriculture comme la priorité de leur programme d'action et estimant que l'agriculture aujourd'hui reste le seul socle pour le développement de la RDC. Alors, comment arriver à organiser le secteur agricole d'une manière durable en RDC? Comment réussir la réforme du secteur agricole? C'est la question au centre de notre échange. Et pour en parler, nous avons associé dans ce studio le professeur Michel Dissonama Singo, qui est assistant du représentant et chargé de programme à l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et FAO. Professeur Michel Dissonama, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ajoute que vous êtes aussi professeur à la faculté
d'agronomie
à l'Université nationale pédagogique.
Merci.
Et les domaines de l'agriculture, c'est votre affaire, on peut le dire.
Oui, c'est mon domaine.
Voilà. Et comment, en quelques mots, comment se porte le secteur agricole dans notre pays?
Oui, je dirais que le secteur agricole dans notre pays se porte, comme je peux le dire, rencontre beaucoup de difficultés pour arriver à démarrer. Donc, comme vous le savez, depuis l'indépendance de ce pays, plusieurs programmes se sont succédés, et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et si vous regardez tous ces programmes, malheureusement, le même constat est fait aujourd'hui. Et c'est comme si on est encore vers les années 1966.
Mais et quand on regarde notre histoire, la RPC, premier producteur mondial de Major, premier producteur du café, à quel niveau effectivement nous avons commencé à avoir des problèmes dans le secteur agricole alors que nous étions premier producteur d'autant de produits quand nous sommes sortis de l'indépendance?
Oui, plusieurs analystes situent le problème déjà à l'indépendance. Et les troubles qui avaient suivi l'indépendance du pays ont été à la base de problèmes qu'a connu le secteur agricole. Et si vous lisez l'histoire du pays, vous allez voir déjà le président Mobutu avait déjà soulevé cela, que c'était, si vous voulez, l'une des raisons qui a poussé l'armée à prendre le pouvoir pour essayer de relancer la production agricole. Mm-hmm. Mais le problème s'est encore accentué avec la problématique de la zaryanisation et bien après, c'est vers les années 90 qu'on a vraiment connu alors un déclin très 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 prononcé du secteur agricole suite à toute l'instabilité politique que vous connaissez dans le pays.
Et est-ce qu'on peut dire aussi que la conception de l'économie sur par rapport au secteur minier a joué une influence capitale dans notre conception de l'agriculture?
Bon, effectivement, le secteur minier a joué, comme dans tous les pays miniers. L'économie essaie de se reposer sur le secteur minier, mais il faut dire aussi que le secteur minier a connu lui-même aussi des problèmes. Je pense que le gros des problèmes, c'était lié beaucoup plus à l'instabilité politique qu'a connu le pays.
Et quand même on a vu à un certain moment avec le président Mobutu, il y a eu des programmes. Quand on regarde les domaines agricoles de l'Ancelé, c'était dans l'optique de pouvoir relancer les secteurs de l'agriculture. On a eu autant d'autres initiatives avec les différents gouvernements qui se sont succédés. La faiblesse, est-ce que c'est au niveau du financement ou c'est l'absence même de la politique claire qui doit conduire les domaines de l'agriculture dans notre pays?
Oui, comme je l'ai déjà dit ici, tous les programmes qui se sont succédés ont fait les mêmes constats, ont soulevé le même goulot d'étranglement de l'agriculture. Et le problème est qu'il n'y a pas une politique agricole claire au niveau du pays, comme c'est le cas dans tous les autres pays qui ont connu l'émergence agricole.
Et vous êtes du programme des Nations Unies pour l'alimentation et la culture FAO. Quelle est la part de soutien d'apport aujourd'hui des partenaires de la RDC dans ces domaines de l'agriculture pour sa réforme et son amélioration?
Oui, les partenaires de la RDC jouent un rôle très important dans la levée des contraintes que connaît le secteur agricole aujourd'hui. Et vous avez la Banque mondiale qui finance quand même beaucoup de programmes de développement agricole dans le pays. Et vous avez la FAO qui est aussi le conseiller technique du gouvernement en matière d'agriculture. Et vous avez des organisations comme la coopération technique belge qui a des programmes importants. Mais ces programmes sont orientés directement vers les populations. Et il y en a aussi quelques-uns qui sont, si vous voulez, orientés vers la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole. Parce que sans la gouvernance du secteur agricole, on ne pourra pas avancer.
Et vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu quand même des points positifs dans cette coopération qui ont permis quand même qu'il y ait l'amélioration des résultats sur le terrain. Vous avez permis quand même qu'il y ait l'amélioration des résultats sur le terrain avec les différents appuis des partenaires.
Oui, effectivement, on a des améliorations, mais il faut dire que les améliorations sont quand même lentes par rapport à ce qu'on aurait souhaité atteindre. Okay? Et si vous regardez même en termes de réduction de l'insécurité alimentaire dans le pays, on fait des avancées, mais les avancées sont faibles. Si vous regardez aussi en matière de réduction de la pauvreté, on fait des avancées, mais les avancées restent quand même trop lentes qu'on le souhaite.
0-81-890-63-15, c'est le numéro d'appel. Si vous avez besoin de nous joindre en direct dans ces magazines consacrés à la relance de l'agriculture en RDC 56 ans après l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale.
Spécial Transition 2016 avec l'équipe de dialogue entre Congolais à Kisangani dans la province de la Tchopo. Avec comme thème 56 ans après l'indépendance, quel rôle la ville de Kisangani a-t-elle joué sur le plan politique et économique dans l'histoire de la RDC? Venez nombreux participer à cette émission qui sera enregistrée dans la grande salle de spectacle Jean Finant de l'Alliance française située sur le boulevard Mobutu, numéro 34 dans la commune Makito, à 14h heure de Kisangani. Radio Capi, toujours près de vous.
Parole aux auditeurs.
Le débat est très animé sur la page Facebook des Paroles aux Éditeurs. Timothée Moukini, maître qui nous écrit des Kananga, dit ceci: nous ne pouvons pas comprendre comment un pays comme la RDC, 80% des terres arables, continue à importer certains produits alimentaires, même en Israël où c'est le désert, c'est pas comme ça. Mais à mon avis, le gouvernement devrait aider le paysan avec le système d'accès aux semences amélioré pour favoriser la production. Certains agriculteurs disposent encore des variétés des semences qui font plusieurs mois pour être récoltées. Et de cette façon, l'agriculture ne peut pas profiter à la population. Joséphine, vous nous avez appelé de Boston. Merci de nous avoir contacté pour intervenir dans ces magazines. Vous êtes avec nous. Bonjour, madame.
Ah, bonjour, Radio Okapi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. J'aime l'agriculture. Je n'aime pas l'économie, je n'aime pas plutôt la politique. J'aime l'agriculture, j'aime l'économie, j'aime les transports.
Mm-hmm.
Moi, j'ai la foi. I believe, comme on dit en anglais, avec l'agriculture, le Congo va démarrer. Pourquoi? Parce qu'on a essayé avec les mines. Les mines, ça tue les routes. Et les routes qu'on n'a pas. Donc, c'est terrible. Si on n'a pas construit les routes avec les mines, je crois qu'avec l'agriculture, les routes seront construites et l'économie du Congo va démarrer. Pourquoi? Parce que quand on fait des fermes, quand on fait le programme agricole, on cultive les histoires à manger, on sera obligé de les transporter jusque à la aux populations des endroits différents, et l'État sera obligé de faire les routes. Je salue notre ami qui est sur le plateau et je le félicite beaucoup. Je ne sais pas là où il a étudié, mais je sais que dans le temps il y avait le collège, l'université à Mahagi. Et il y avait l'université de Yangambi qui a sorti beaucoup, beaucoup d'agronomie.
Voilà, notre invité, effectivement, a étudié à Yangambi, oui.
Ok, s'il a étudié à Yangambi, il a même étudié avec mon frère, qui est agronome, qui traîne, qui n'a jamais eu de travail. Ça, c'est ça, le Congo. Mais ma question, j'ai beaucoup à dire, mais ma première question, c'est celle-ci.
Mmh.
En 2011... On était à Mokambo. On a vu des engins agricoles. On s'est dit merci beaucoup. Il y a des engins, même à Mokambo. Vous savez, Mokambo, c'est très loin.
Mm-hmm.
J'ai mon beau-père qui est à Mbujimayi. Il a vu aussi des tracteurs. C'était pour l'agriculture. On a dit qu'on va démarrer maintenant. Ah, moi, j'étais prêt. Nous, on est dans le transport. On attendait. Qu'est-ce qui est devenu ces tracteurs qu'on a distribués partout dans des villages? C'est parce que nous, on a vu, c'était à peu près 10. C'était déjà beaucoup. Mais on a vu que c'était là-bas pendant au moins presque une année. Ça faisait déjà 6 mois. Ils ont travaillé 1 mois et puis il n'y avait eu rien. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et puis, ma deuxième question, le programme de Kanyama, hein, ce que Mouzé avait fait, c'est où? C'est parti où? Si on a fait le Bukangalonzo, est-ce qu'il y a eu des agronomes locaux qu'on a appelés pour intéresser le programme de Bukangalonzo? Parce qu'ici, aux États-Unis, le Bukangalonzo, il y en a même 1 million. Il faut lire, les États-Unis, ce qu'il est, c'est à cause de l'agriculture. Mm-hmm. Si vous... Ouais, ouais. C'est bon, ça, c'est mes 3 questions.
Merci. Merci beaucoup, Madame Joséphine, de nous avoir appelé des Boston aux États-Unis d'Amérique. Et merci. Vous vous réveillez souvent très tôt matin pour intervenir dans cette émission. Vous avez évoqué les cas des tracteurs du Sud en 2011. On se rappellera qu'on a eu plusieurs émissions paroles aux auditeurs consacrées à cette question. C'était près des 750 tracteurs que le gouvernement avait acquis. Aujourd'hui, on se pose des questions. Ils ont été distribués partout. Les résultats, c'est la question qui a été toujours posée dans la parole aux auditeurs. Mais vous avez évoqué la question du programme Kanyamakasese, on se rappelle bien, avec le service national initié par M. Laurent Désiré Kabila, et le programme de Bukangoloso, c'est savoir si les ingénieurs agronomes congolais ont été intéressés à cette question. Merci. Mais vous estimez que si on investit dans l'agriculture automatiquement, on va faire les travaux des autres infrastructures de base, comme les routes pour l'évacuation des produits agricoles. Merci, madame. Nous revenons ici à Kinshasa. Félicien, merci de vous être présent à nous dans cet échange. Bonjour et bienvenue, Félicien.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi, et bonjour aussi à votre invité.
Et quand nous avons formulé cette question, notre souci, c'est de parler d'une manière durable. C'est-à-dire qu'il y a une réforme qui dure, qui permet quand même à ce que l'agriculture devienne aujourd'hui le siècle de développement comme on espère. Alors, comment on peut arriver à cela, Félicien?
Mais c'est ça, vraiment, le problème, Pierrot. Nous ne comprenons pas exactement nos dirigeants exactement qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils disent que l'agriculture, c'est ce qui développe un pays, et ça, c'est connu de tous. Mais ils le disent, mais ce qu'ils font, c'est autre chose. Vous pouvez pas comprendre que depuis 1960 jusqu'aux années 70, nous avons vu ce pays-ci être premier producteur de ceci, deuxième de cela, troisième de cela. Nous étions au top. Mais après, on ne s'en occupe plus et on tombe très bas. Mobutu a essayé avec les domaines de Rancelé, les domaines de ceci, cela. Mobutu vient avec les Kanyamakasese, avec Mbakana, je ne sais pas, Château de Bateke. On a envoyé là-bas le service national, tout ça. Et puis aujourd'hui, maintenant c'est Bokangalonzo, tout comme ça. Mais nous n'avons pas besoin d'inventer la roue. Nous devions savoir qu'est-ce que les colonisateurs ont fait, qu'est-ce que on a fait des 60 et 70 pour que nous puissions relancer l'agriculture. Et maintenant, on est tous pressés d'avoir l'argent dans les minéraux pour aller investir ailleurs ou aller les mettre dans des banques étrangères, tout ça pour leur lendemain. Mais après tout, ça ne va pas résoudre le problème de ce pays. Mais l'agriculture pouvait donner du travail à un grand nombre et ça pouvait nous nourrir au lieu d'importer toujours, et ce qui demande encore beaucoup de devises qu'on devrait dépenser mais qu'on n'en a pas. On ne va pas inventer la roue, on doit voir qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce que nous devions faire en améliorant compte tenu des développements technologiques. Mais on dirait que il chante, il parle et tout ça, mais il ne passe pas à l'acte. Donc, il y a un problème de volonté politique. On n'a pas encore trouvé des dirigeants qui veulent réellement développer ce pays. Sinon, la terre que nous avons est restée la même depuis l'époque de la colonisation, depuis l'époque des indépendances, et elle est toujours fertile. Et c'est un problème de volonté politique. Personne ne veut développer ce pays. Mmh. C'est ce que j'ai fait comme constat aujourd'hui.
Merci beaucoup, Félicien. Et vous avez résumé votre intervention en disant qu'il y a l'absence de volonté politique pour réellement réformer le secteur de l'agriculture, alors qu'il y a des bases qui ont été déjà posées. On n'a qu'à se référer plutôt que créer d'autres programmes qui ne permettent pas d'aller et plus loin. Nous revenons directement à vous, professeur Michel Dissonama. Vous avez suivi des compatriotes, madame, qui est aux États-Unis, a posé quelques questions. En fait, son inquiétude, c'est de voir, comme nous l'avons dit en introduction, qu'il y a des programmes qui ont été initiés, des réformes, des initiatives, mais qui malheureusement ne portent pas de fruits. Et Félicien, lui, qui évoque la question de la volonté politique réelle de pouvoir réformer le secteur de l'agriculture.
Oui, merci beaucoup. Je vais commencer par Félicien. Effectivement, Félicien a raison lorsqu'il dit qu'il faut une réelle volonté politique pour faire avancer le secteur agricole. On l'a vu, par exemple, un exemple qui est très frappant, c'est le Brésil, où le président Lula a mis en place le programme qu'on appelle communément le programme 5.0, et donc lancé depuis le 1er janvier 2003. Et il en a fait personnellement son champ de bataille. Et aujourd'hui, on sait que le Brésil, c'est parmi les pays qui ont connu un essor agricole important. Et En RDC, il faut dire que la volonté politique est là. La volonté politique est là, mais il faut peut-être accélérer cette volonté politique-là. Parce que si je regarde les documents qui est devant moi là, c'est le document du président de la République qui est dit « Ma vision pour un Congo nouveau ». Donc c'est un document du 24 juin 2006. Et au point 4.15, le président dit clairement que la redynamisation de l'agriculture doit redevenir la base du développement national. Et il insiste qu'il faut introduire progressivement la mécanisation, renforcer les capacités de recherche de notre pays et garantir les prix rémunérateurs aux agriculteurs. Donc, on voit que c'est un problème qui est pris à cœur, mais il faut accroître cette volonté-là et les concrétiser pour qu'on voie le Congo, qui est au fait septième puissance agricole au monde, sur le plan des potentiels, redevenir vraiment à sa place. Alors, deuxièmement, pour madame qui est aux États-Unis, je suis aussi totalement d'accord avec elle sur ce qui concerne les infrastructures. Et je disais même qu'il faut regarder l'agriculture différemment. Il ne faut pas regarder l'agriculture qu'on produit d'abord et on regarde les marchés après. Il faut plutôt faire l'inverse. Il faut regarder les marchés et produire. Donc, la porte d'entrée pour l'agriculture, ça doit être l'accès au marché. Et dans cet accès au marché, il y a l'accès physique qui concerne les infrastructures. Donc, on sait très bien que le Congo, c'est un des pays où les transports coûtent, je dirais, le plus cher au monde pour déplacer le produit. Et vous savez, par exemple, que vous avez, il faut 0,20 $ par tonne pour déplacer une tonne sur un kilomètre, alors que la moyenne de l'Afrique centrale est de 0,13. Et en Afrique australe, on est à 0,05. Donc, si on regarde les chiffres, on voit très bien que c'est vraiment un problème important. Et dans ces domaines-là aussi, on voit que les efforts sont là. Et il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui s'attaquent à l'amélioration des infrastructures d'accès au marché.
Et quand on dit qu'il faut regarder autrement, Félicien le disait, le problème qui se pose aujourd'hui, on sait que la plupart de l'agriculture est beaucoup plus attirée actuellement par des paysans. On n'a pas encore cette agriculture industrialisée. Quel est le vrai problème qui se pose aujourd'hui chez les paysans? C'est l'accès aux semences, comme le disait notre ami de Kananga. Est-ce que c'est l'accès même aux capitaux pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge? Le problème de l'évacuation, vous qui travaillez avec les plus proches, leurs besoins se présentent en termes de quoi aujourd'hui?
Oui, je peux dire qu'il y a, il y a beaucoup d'axes en termes de besoins. Vous avez d'abord tout ce qui concerne l'accès aux intrants, de manière générale, donc l'accès aux semences de qualité. Donc, comme vous le savez, dans le processus de production des semences, nous avons un acteur important qui est l'INERA. Il doit normalement produire les semences de base, et nous savons tous les conditions dans lesquelles l'INERA travaille aujourd'hui, ce qui fait que le pays a presque l'absence en termes de semences de base, et on arrive à importer pour certaines entreprises qui ont un peu des ressources, ils arrivent à importer vers les quais, donc du Kenya, de l'Ouganda, certains matériels végétaux. Ça, c'est un problème important, mais nous avons aussi ce qu'on connaît tous, les problèmes liés à l'accès à d'autres intrants, comme les engrais. Donc, le Service national des fertilisants intraconnex, qui est le SENAFIC, vous savez tous les conditions dans lesquelles ce service travaille aujourd'hui. Donc, vous avez tout ce qui est l'accès au crédit, vous avez même l'environnement des affaires qui est difficile, bien que la RDC fait les progrès, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer le climat des affaires. Parce que sans une agriculture compétitive, on ne peut pas parler de la mise en place des filières semencières rentables et durables. On ne pourra pas non plus parler d'une politique d'accès aux intrants durables.
Michel Bernard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Michel Bernard.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi depuis le début de l'émission et la problématique est au centre de notre échange. Quel est votre point de vue?
Bon, effectivement, je viens de suivre, je crois, l'intervenant qui vient de parler là.
Mm-hmm.
Il a un peu brossé à certaines situations qui est bénéfique pour notre pays. Mais du fait que, quant à moi, j'ai voulu un peu parler de, si on doit voir réellement l'évolution de l'agriculture dans notre pays, ça commence à aller un peu, mais il faudrait qu'il y ait encore des efforts. Pourquoi ? Parce que si je me réfère à la date qui était avant 1960 et après 1960, je considère que notre pays était placé parmi le meilleur pays producteur dans le domaine agricole. Maintenant, il est vrai que même avec la situation de parc agro-industriel de Bukangalonzo, c'est ça aussi c'est encourageant, mais je pense que cela ne suffit pas. Ce qu'il a fallu que nos autorités puissent un peu faire, selon moi, parce que ça m'engage que moi,
oui.
Selon moi, je vois qu'on devrait faire le regroupement de paysans en sorte de coopérative agricole. Hein? Mmh. Alors, en vue de cette situation, une fois regroupé le paysan, alors on devrait commencer aussi à arranger les routes de dessertes agricoles et mettre le moyen aussi des transports à leur portée. Parce que je pense bien en faisant l'agriculture mécanisée, nous serons butés surtout dans le problème d'approvisionnement de carburant, d'approvisionnement de matériel et surtout le pied de réchange qui peut bloquer à tout moment l'évolution de l'agriculture. C'est ainsi, quant à moi, je dis que la meilleure politique est qu'on puisse qu'on puisse activer la population, c'est-à-dire qu'on puisse remettre la population active en action. C'est ça surtout ma préoccupation que je voulais un peu intervenir là-dessus.
Merci beaucoup, Michel Bernard. Cette question que vous avez soulevée de l'organisation de paysans en coopérative, c'est très important. Je me rappelle même quand le ministère, en 2009, procédait au lancement du conseil agricole rural des gestions, on avait beaucoup insisté sur cette question de coopérative qui doit permettre à ce que les paysans se regroupent et comme ça ils peuvent être assistés, ils peuvent recevoir toute la science technique nécessaire, mais aussi l'accès au crédit qui peuvent permettre à tous ces paysans puissent s'organiser et pouvoir développer le secteur de l'agriculture. Merci beaucoup, Michel Bernard, de nous avoir appelé de Kinshasa. Philippe, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Roger. Bonjour, l'invité plateau. Bonjour, les auditeurs de la radio Kati à travers le monde.
Et aujourd'hui, à Kisangani, que ce soit quand c'était du temps de la grande province orientale ou dans les démembrements, y a-t-il eu des actions quand même qui ont été menées, que ce soit au niveau de la base, des gouvernements provinciaux, pour arriver quand même à intégrer la réforme ou la relance de l'agriculture et avec des résultats que vous avez palpés à Kisangani ou dans l'ensemble de la province, Philippe?
Oui, j'irai. Et du point de vue de ce que nous voyons concrètement, il y a des avancées. Mais néanmoins, les avancées sont bloquées par certains obstacles. Mais j'aimerais donner mon point de vue comme celui de mon précédent. J'aimerais donner le point de vue pour que nous puissions avoir les avancées dans ces domaines agricoles, j'irai. Partout, vous allez comprendre avec moi que le prix de l'ananas que j'ai acheté à Iju au nord de vous, ce n'est pas le même prix que j'ai acheté ici à Kisangani. C'est tout à fait problème. Mais j'aimerais donner les points clairs. Premièrement, on devrait savoir que nous avons besoin des hommes. Les hommes dans ce programme. L'invité a dit qu'il avait fait l'agronomie à Yangambi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a combien d'agronomes à l'université de Kinshasa qui traînent jusqu'à présent? J'avais même suivi, sur le même point, j'avais même suivi que Bukangalonzo a vraiment licencié certaines personnes parce qu'ils sont aussi déclarés incompétents. Voilà, allez-y maintenant comprendre. Bon, il faudra d'abord réformer les ressources humaines sur ces gens qui doivent aller sur le terrain. Ça, c'est mon point de vue. Deuxièmement, nous devons travailler sur les personnels eux-mêmes qui doivent travailler. C'est-à-dire, on avait affecté les intrants, les tracteurs qui étaient venus ici. Mais hier, franchement, les tracteurs sont en train de transporter des bidons d'eau pour qu'amener et sa chambre les poulets troués dans des maisons des députés. Nous avons des preuves, sûr. Bon, pensez-vous réellement que les forces qui ont été menées puissent être vérifiables? Là, c'est non. Du moins, il faudra d'abord réformer les ressources humaines du même programme. Et deuxièmement, et troisièmement, j'aimerais donner votre point de vue. Vous savez, le problème au Congo à rendre tout national. Il faudra laisser une partie au privé. Il y a l'instrumentalisation, ou du moins, il y a un problème de mon frère est là. On ne peut pas du tout donner à la maman maréchale les intérêts qu'elle veut parce qu'elle n'est pas de la connotation politique ou directe, ou du moins, elle ne peut pas faire aussi l'effort. Pourquoi? Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont bénéficiaires de ces programmes qui ne sont pas les agronomes ou même agriculteurs. Je souhaiterais du moins. J'étais au Maniema, j'ai vu aussi la faculté agronomique à Kindu. Mais tous ces agronomes, pourquoi? Vous savez, je prends même allusion comparative avec les juristes. On a fait non, nous allons de près les juristes partir par là. C'est de la même façon qu'on devrait même procéder. On devrait prendre les agronomes, les affecter dans un lieu. Vous voyez, un autoritaire a parlé sur les réserves stratégiques. Lorsque Mouzet est venu, il a fait que nous...
Dommage, la ligne entre Kinshasa et Kisangani vient de se détériorer. On a perdu Philippe. Plus pas ajouter une dimension dans ces débats. C'est la question de la réforme des ressources humaines. Lui estime aujourd'hui qu'il faut travailler l'homme qui doit être intégré dans le programme de la relance de l'agriculture. On en a évoqué, d'ailleurs, vous rappelez, on a eu plusieurs débats dans ta parole, aux états consacrés à l'agriculture, et même les ingénieurs agronomes eux-mêmes nous ont dit que 80% de ceux qui avec qui ils sont à Kinshasa. Combien de gens aujourd'hui acceptent d'être déployés en province, enfin, font pour aller assister, parce que ces paysans ont besoin d'être encadrés. Mais au-delà de tout, vous avez aussi évoqué la question de la non-politisation du domaine de la culture. Pourquoi pas aussi libéraliser les secteurs? Et bon, la question de tracteurs, on en a beaucoup parlé. On va revenir à notre invité pendant ces temps. Maître Olivier, vous êtes à Badolité, vous gardez la ligne ainsi qu'Adolphe qui est à Lubumbashi. 081-890-6315 pour intervenir dans cette émission.
Au Capidance, du rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs, tous les tempos mixés par DJ Dadi. Au Capidance, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, professeur Michel Dussonama. Vous avez encore suivi les compatriotes. Il y a plusieurs choses qui s'ajoutent dans cette question. Il y a là la question des ressources humaines qui se posent dans les domaines de la réforme de l'agriculture, comme le disait tout à l'heure notre ami de Kisangani et Michel Bernard qui... Il y a aussi évoqué la question de l'organisation des paysans, les coopératives. Est-ce qu'ils sont assez assistés comme ça pour leur permettre de comprendre les enjeux au vu de l'agriculture et être orientés?
Oui, je commencerai d'abord par dire que je suis content qu'on ait tous de même avis que le pays est en train d'avancer, bien qu'il reste beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. On fait quand même des pas, bien que la marche et la vitesse est encore faible et qu'on devra accélérer. Et je dirais encore que dans un secteur comme le secteur agricole, le goulot d'étranglement, on ne peut pas avoir un seul. Donc il y a plusieurs goulots d'étranglement. On a déjà parlé de l'accès au marché, on a déjà parlé de l'accès aux intrants et on sait tous qu'il y a aussi des problèmes liés à l'accès à la terre même. Et ce que l'auditeur vient de dire tout à l'heure, la question de la qualité des ressources humaines. Et ça, c'est un problème, ça c'est un problème réel qu'on rencontre. Une étude de la Banque mondiale l'avait déjà relevé, qui avait paradoxalement, à ce qu'on peut croire en RDC, où on a une démographie galopante, où on a des industries presque inexistantes, on a le chômage massif, mais on voit qu'il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Pénurie de main-d'œuvre en termes de qualité, mais aussi même la main-d'œuvre ordinaire, ça pose trop de problèmes dans certaines régions. On a un problème de faible productivité de la main-d'œuvre en RDC. On a un problème d'absentéisme dans certaines plantations qui monte jusqu'à 20%. Donc, tout ça, ce sont des problèmes relevés et puis qu'il faut normalement réformer. Il y a beaucoup de programmes de renforcement des capacités, beaucoup de programmes de recyclage qui sont en cours et qu'il faut encore accélérer. Alors, par rapport aux intrants agricoles et par rapport à la mécanisation, je crois qu'il faut bien faire la part des choses. Il y a d'un côté le gouvernement ou si vous voulez l'autorité qui a sa part de responsabilité dans le secteur agricole, mais il y a aussi tout ce qui concerne le secteur privé, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc le gouvernement devrait normalement mettre en place les conditions pour permettre aux investisseurs privés d'investir. Et ça, c'est quelque chose de très capital. Et il faut aussi, au fur et à mesure, qu'on sorte un peu de cette problématique de penser qu'on doit distribuer. Il faut plutôt mettre en place des mécanismes où les privés s'approvisionnent en intrants et on arrive à pérenniser cela. Parce que les programmes de distribution, généralement, ne sont pas durables.
Et quand vous avez évoqué cette question que le gouvernement mette des conditions qui permettent aussi aux privés de pouvoir investir, on a eu dans le débat le président de l'Association des ingénieurs agronomes qui nous a dit plusieurs fois aujourd'hui que le pays a un problème serré de certification de plantes. Alors si des investisseurs peuvent venir dans un domaine où ils ne sont pas sûrs de pouvoir cultiver et exporter, on le sait, toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on accepte des produits agricoles de la RDC ailleurs par manque de ces domaines de certification et dans ces conditions, on a parlé du code agricole, on a parlé des difficultés avec l'accès aux terres, le conflit entre le code minier et les carrés miniers et les espaces. Voilà un peu cet environnement juridique, est-ce qu'il a assez clarifié pour donner des garanties quand même à ceux qui souhaitent investir dans les secteurs de pouvoir y apporter des capitaux?
Oui, je dirais que ce sont des problèmes structurels. Et tous ces problèmes structurels, il existe de programmes au niveau du gouvernement pour essayer d'adresser ces questions-là. C'est par exemple qu'il existe une commission au niveau du cabinet du ministre de l'Agriculture qui travaille aujourd'hui sur les cadres réglementaires, sur les lois. Je sais aussi qu'il y a la loi sémencière, parce que vous parlez de la certification, qui a été déjà élaborée et qui est maintenant en attente d'adoption, et que le pays va être doté dans les jours qui viennent d'une loi qui permet de réglementer le secteur de semences. Et on a tous les problèmes liés à l'accès au crédit, où la loi agricole que tu as évoquée tout à l'heure a prévu que le gouvernement puisse mettre en place un fonds national de développement agricole qui pourra essayer de servir comme des fonds de garantie au niveau des banques privées pour accroître l'accès au crédit aux populations.
Maître Olivier, vous êtes à Badolité. Bonjour, Maître Olivier.
Bonjour, Monsieur le journaliste, et bonjour également aux salariés.
On vous écoute, Maître Olivier.
En fait, par rapport à la thématique du jour, quant à mon avis, je dirais que le problème de l'agriculture dans notre pays, c'est premièrement c'est l'absence de la politique claire pouvant conduire le domaine de l'agriculture. Deux aussi, c'est l'absence de réformes dans ce secteur. Et de trois, c'est l'absence d'une politique nette de financement du secteur agricole. Puisque c'est étonnant de voir dans notre pays, un si grand pays tel que le nôtre, on se focalise rien que dans les secteurs miniers, alors qu'il y a le secteur de l'agriculture qui est un secteur phare du développement. Si aujourd'hui on parle de la Chine est aujourd'hui telle qu'elle est, c'est grâce aussi à l'agriculture. Nous sommes dans un pays à terre potentiellement riche, mais de mal est que nous ne voulons pas l'exploiter dans l'optique du développement.
Alors, à mon avis, je souhaiterais mieux que nous puissions encourager les investissements privés. Nous puissions renforcer aussi la capacité technique de nos agriculteurs. Et de trois, nous puissions aussi doter, nous puissions le doter par de moyens appropriés de semences, de tracteurs, de machettes, de poudres, de bêches, ainsi de suite, pouvant les aider à développer ce secteur. Pourquoi je dis ça? C'est parce que avec l'encouragement des investissements privés, nous aurons assisté à une scène de concurrence de la production. C'est-à-dire que chacun de ces investisseurs privés doit chercher à produire plus par rapport aux autres, et cela va permettre à ce qu'il y ait une grande production alimentaire dans le milieu. Et ces derniers vont encore les orienter vers la consommation qui permet cela à la population d'avoir une bonne croissance alimentaire. Et aussi, cela va réduire le taux du chômage car les investisseurs vont avoir au moins dans son entourage 5 personnes. Et on suppose que ces 5 personnes sont dans la majorité de cas de chômage puisque le taux de chômage est exagéré dans notre pays. Et quand on prend 1000 investisseurs qui ont reçu le financement de la part du gouvernement, et quand on multiplie le 1000 investisseurs par 5 personnes, on voit déjà 5 000 travailleurs. Ça pourrait aussi aider dans le domaine même de création des emplois. Et ça pourrait aussi faciliter dans le domaine de développement économique dans notre milieu. Voilà en quelques lignes ma contribution.
Merci, M. Olivier, c'est très important. Mais toutes les pistes de solutions que vous avez présentées, vous l'avez dit, c'est-à-dire que nous devons concevoir la réforme de l'agriculture dans l'optique de l'exploitation, exploiter l'agriculture dans l'optique du développement. Voilà, cela va être le mot-clé. On ne peut pas penser investir dans un domaine si il ne peut pas apporter les développements et les mesures qui doivent accompagner autant que vous les avez présentées dans cette émission. Nous vous disons merci de nous avoir appelé Degba de lycée. Adolphe, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour Adolphe. Adolphe, vous êtes avec nous. On a perdu Adolphe de Lubumbashi. On va revenir à lui. Et nous retournons ici dans la capitale, Bénin. Bonjour Bénin.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute Bénin.
Écoutez, je suis en train de remarquer que devant des émissions très importantes comme ça, nous avons un petit défaut de nous attarder plus sur le tour d'horizon. En 1960, la situation s'est améliorée. Tout ça, ça nous éloigne, ça ne nous permet pas de nous fixer sur le concret. Nous voulons savoir que doit-on faire de l'agriculture aujourd'hui, en 2016, jusqu'à les années qui suivent en RDC. Alors, tout le monde n'ignore pas que l'agriculture a trois phases. Il y a la production, la distribution et la consommation. Au niveau de la production, le remède, c'est qu'il faut augmenter la capacité de production pour avoir un bon rendement. Et dans cette capacité, que ce soit le privé, avec leurs partenaires, que ce soit l'État, doit avoir un investissement en équipement et faire appel aussi à la main-d'œuvre spécialisée, comme disent les autres. Vous savez que les pays qui ont commencé, comme les États-Unis, à avoir des retombées très positives en termes agricoles, ont commencé par former la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a même des semences aujourd'hui qu'il faut toujours mettre au point, les étudier pour savoir à quel climat ça peut produire. Il y a des maladies même au niveau de semences qu'il faut prévenir. Dans ce secteur-là, nous devons avoir des avancées comme les professeurs ont donné leur point de vue. Qu'il faut maintenant avoir des agriculteurs spécialisés. C'est au niveau de la distribution qu'on va parler de route et de tout ça. Et lorsque jusqu'aujourd'hui, on vous parle qu'on ne peut pas faire amener un sac de maïs d'un coin du pays jusqu'à la capitale, soit par bateau, soit par avion, ça coûte cher. C'est parce qu'il n'y a pas de route. Mais à l'époque de Mobutu, s'il faut être honnête, les retombées de l'agriculture du pays se faisaient sentir plus aujourd'hui parce que Mobutu n'avait pas un programme aussi scientifisé qu'il faut macadamiser toute la République. Il y avait des routes en terre bitumée à Lomela vers Djonga, mon secteur. On pouvait avoir un véhicule plus à même d'étaper des cotons et consorts. Et on a fait étudier, et mes aînés et moi-même, une partie par ce produit-là. On n'avait pas besoin de macadamiser la route pour se faire ainsi. Donc, au niveau de la consommation, c'est ainsi qu'on va voir le prix à l'exportation et consorts. Mais si on n'arrive pas à bien gérer ce secteur, nous allons continuer à être devant les boutiques de Congo Futur pour distribuer un peu du riz, un peu de poisson, de poulet de l'étranger pour les fonctionnaires qui travaillent. Donc c'est un secteur qu'il faut vraiment prioriser en termes d'action et non en termes de paroles ou de théories. Voilà ma petite contribution.
Merci, merci beaucoup, Ben. D'ailleurs, vous nous avez raison, même quand nous avons posé la question de pistes et des solutions, c'est ce que vous venez de faire exactement, mais rien. N'empêche, quand même, on a dans nos débats, on a quand même cette nostalgie du passé. C'est normal que les gens se souviennent encore du vieux beau temps, comme on les disait. Mais ce qui est plus concret, c'est ce que vous avez dit. Beaucoup de compatriotes sont revenus aujourd'hui en posant les vrais problèmes qui se présentent dans les secteurs, en proposant des pistes et des solutions. Mais vous les avez regroupés en trois axes, la production, la distribution et la consommation. Peut-être que les autres les ont présentés pêle-mêle, mais du moins, on estime qu'en mettant cela comme priorité, telle que vous l'avez définie, on peut arriver aujourd'hui à résoudre cette question de la réforme et l'amélioration du secteur de l'agriculture. Merci beaucoup, Bénin. Adolphe, vous êtes à Bombaché, je crois que la ligne s'est améliorée avec Adolphe. On vous accorde la parole, Adolphe. Bonjour et bienvenue. Adolphe, vous êtes avec nous? Dommage, on a des petits soucis, des lignes avec lui. On revient à vous, ingénieur Michel Dissonamant. Vous avez suivi encore la vague de nos auditeurs. Au-delà de ce qu'ils ont dit, mais il y a quelque chose qui m'arrive. Je crois bien, quand on a jamais réussi il y a quelques années, le secrétaire général à l'agriculture, on avait évoqué ce programme prévu au niveau du nouveau partenariat du développement pour l'Afrique, où le pays africain pouvait bénéficier d'un fonds pour soutenir les secteurs de l'agricole. Je crois qu'il y a le Rwanda, l'Ouganda qui ont profité. Mais il me disait tout à l'heure qu'au niveau de la RDC, on avait un problème d'élaboration du plan d'action qu'on pouvait présenter au niveau de l'Union africaine pour pouvoir recevoir le fonds. Et vous qui assistez aussi techniquement à la RDC, est-ce qu'on est arrivé quand même à un certain moment d'avoir un plan détaillé bien du développement de l'agriculture qui peut être présenté à l'extérieur pour pouvoir attirer le soutien au-delà de ce que les auditeurs venaient de dire tout à l'heure?
Oui, effectivement, il y a le programme national des investissements agricoles qui avait été élaboré dans le cadre du programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Mais ce qu'il faut retenir, que ce programme, ce n'est pas un programme à présenter à l'Union européenne, à l'Union africaine pour le financement. Donc, dans ce programme, il y a le financement de la RDC. Mais il y a aussi le financement des autres partenaires.
Il y a la base du roi, il y a aussi la Banque mondiale.
Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien faire la différence entre un programme agricole et une politique agricole. On a beaucoup de programmes agricoles, mais nous sommes face à l'absence d'une politique agricole. Et les discussions sont très avancées entre la FAO et le gouvernement et le ministère de l'Agriculture pour mettre en place la politique agricole du pays, dont l'ébauche devra normalement sortir à partir de 2018, et on va passer à la finalisation de ces politiques. Parce qu'il y a aujourd'hui certains enjeux qui sont des enjeux importants, qui n'ont pas existé il y a quelques années, comme la question liée au changement climatique. Mm-hmm. Vous savez que la RDC est engagée dans le processus RED, qui est réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et lorsqu'on veut faire des programmes agricoles, que ce soit au niveau des ménages, où on sait très bien que c'est l'agriculture itinérante surbrûlée qui est la première cause de la déforestation du pays, mm-hmm. il y a besoin de doter le pays d'un programme d'aménagement du territoire où on doit très bien savoir quelles sont les terres qui doivent rester des terres agricoles, quelles sont les terres qui doivent exploiter les minéraux, ainsi de suite. Voilà, ça c'est quand même un problème important. Et je sais que beaucoup ont l'habitude de penser que le changement climatique, ce n'est pas le problème de la RDC. Uh-huh. Non, mais la RDC est je dirais, victime de ce changement climatique également. Et que la RDC a l'avantage d'être à la fois victime et aussi solution à ces problèmes-là. Donc, la nouvelle politique agricole qui va sortir va tenir compte également de ces enjeux climatiques et de conservation des forêts.
Mmh. Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission. On va revenir à vous pour un mot des conclusions. Albert, vous nous avez appelé du territoire de Demba, dans le Kassai central. Bonjour, Albert.
Bonjour, cher Pierrot, et bonjour, l'invité sur le plateau.
On vous écoute, Albert.
Oui, concernant la thématique du jour, j'ose croire, depuis mon enfance, parce que j'ai évolué dans le gouvernement de M. Mobutu jusqu'à son exil, j'ose croire que toutefois, les parler sur le plateau sont mieux, mais ce que nous remarquons, c'est que cette politique agricole n'est pas du tout orientée. Que veux-je dire par là? Parce que nous constatons, surtout nous qui habitons dans des coins les plus reculés, on ose croire que le petit projet de sur de petite rivière centre-belle-Lurette par l'État colonial sont taxés, mais les paysans des points les plus reculés vous fournissent quand même à grande échelle certaines productions selon la modalité en chaîne, mais qui manque l'expédition et qui manque même une main d'œuvre qualifiée pour pouvoir leur apprendre à moderniser, comme nous vivons la révolution de la modernité, de la technique agricole. Suite à cela, je voudrais nécessairement demander à notre invité de me faire la part des choses, parce que je reconnais une chose, que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour de grands centres, de grandes villes, mais aucun des ministres, aucun des qualifiés agronomiques n'a jamais été sur des points les plus reculés pour pouvoir apprendre à ces fameux paysans-là de s'adapter à des nouvelles méthodes. Que faire alors pour que cette agriculture puisse nécessairement se développer dans des points les plus reculés?
Merci beaucoup, voilà. Albert. Merci beaucoup, Albert. Là, on est bousculé par le temps, qu'il y a encore deux auditeurs en ligne. Vous estimez qu'il y a beaucoup qui restent dans la théorie, mais la difficulté aujourd'hui, c'est l'orientation de cette politique agricole et les liens entre ce qui est proposé au niveau de capitales ou des chefs de province avec les paysans qui sont plus concernés dans ces domaines. Maître Sonville, on va vous écouter en une minute, et Madame Bébiche aussi en une minute, pour terminer cette émission. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue.
Bonjour à notre invité. Je trouve que la thématique est très pertinente par rapport aux conditions de vie de la grande population. Je dirais que, M. Pierrot, si nous cherchons l'indépendance économique, il faut bien programmer, il faut bien paramétrer face à l'agriculture. Or, aujourd'hui, M. Pierrot, nous sommes dépendants sur tous les plans économiques, puisque l'agriculture n'est pas considérée comme fer de lance de notre économie. Nous avons vécu, il y a au moins deux semaines, à Lubumbashi, avec le gouverneur, soi-disant, qui veut de créer des villages agricoles au niveau de Noaïsini. Est-ce que cette initiative-là ira de l'avant s'il n'y a pas de volonté politique? Moi, j'estime que non. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme problématique sur l'aspect concernant l'agriculture, c'est manque de volonté économique, de volonté politique. Et puisque aujourd'hui, M. Pierrot, vous êtes en ligne avec nous, que nos partenaires traditionnels mettent beaucoup de moyens en infrastructure, en argent, en financement, pour que nous puissions relancer notre agriculture, rien n'a été fait. Et ce domaine-là a toujours connu des détournements d'argent par le ministre qui ne sont jamais, condamnés, qui ne sont jamais révoqués, qui ne sont jamais suspendus. Et cela, c'est l'impunité totale. Aussi longtemps que toutes les conditions, mais toutes ces conditions ne sont pas réunies, nous ne ferons absolument rien. Puisque je me rappelle, M. Pierrot, au moment où j'étais en 4e secondaire au Collège Humara, dans les cours de géographie économique, nous étions deuxième producteur au monde de l'île de Pâques. Nous étions premiers producteurs au monde du café. Nous étions premiers producteurs de beaucoup de produits. Mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas classés. Nous ne sommes même pas classés en Outre-mer.
Et plus d'ailleurs, nous importons, Maître Sonville, c'est pourquoi Benadizé, on ne peut plus continuer à vanter nos mérites du passé, mais qu'on voit qu'est-ce que nous devons faire. Et vous avez évoqué l'initiative du gouverneur de créer les villages agricoles dans les terres autour de la ville de Lubumbashi. On se rappellera que beaucoup de gouverneurs avaient eu autant d'initiatives. Nous nous rappellerons aussi il y a quelques années, au Kassai Oriental, le gouverneur Alphonse Ngafaji avait aussi créé un programme qui permettait à chaque député provincial, chaque ministre provincial, de pouvoir d'avoir un champ dans son village. Il y a eu de résultats, mais on aurait souhaité avoir plus de témoignages autour de ces initiatives au niveau de gouvernement provincial, mais dommage que ça n'a pas été possible. Madame Bibiche, vous êtes avec Sangani. En une minute, vraiment, votre point de vue pour conclure cette émission, Madame Bibiche. Bonjour. Dommage. Alors là, on a des petits soucis de ligne avec Madame Bibiche. Nous revenons à vous, professeur Michel Dissonama. On a suivi les uns et les autres. Comme le disait bien tout à l'heure de Kinshasa, on a tellement vanté le mérite, nos mérites du passé, mais c'est de voir concrètement ce que nous devons faire. Et tout le monde arrive à parler de la volonté politique. Et vous-même, vous l'avez dit, une politique et notre compatriote de Demba lui parlait même d'une politique orientée. Cela veut dire que dans l'opinion, la question elle est importante et surtout les gens ont des pistes de solutions. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir pour clôturer cet échange?
Oui, je pense que ce qu'il faut faire dans ce pays pour booster l'agriculture, nous le savons. Tous les documents des stratégies agricoles les disent. Et nous, on l'a synthétisé sur 12 points. Donc, nous savons tout ce qu'il faut faire dans ce pays. Mais ce qu'il faut faire, c'est que à l'heure actuelle, il y a certains de ces points qui sont abordés actuellement, mais il y en a d'autres qui connaissent du retard. Donc, ce que je dirais, c'est que il faut accélérer les points qui sont en retard. Il faut prendre des réformes courageuses. Vous savez, un pays comme le Sénégal a boosté son secteur agricole tout simplement en interdisant l'importation de poulets, tout simplement en interdisant l'importation des œufs. Et une ou deux ans après, on a vu au niveau national des initiatives se développer et aujourd'hui, c'est un des pays qui exporte les œufs en Afrique de l'Ouest. Donc, on a besoin d'un leadership pour essayer de faire avancer le
pays. Et l'amélioration de la gouvernance, parce que notre ami de Lubumbashi, Maître Sonville, évoquait le détournement des fonds. Mais est-ce qu'il y a aussi un travail qui s'est fait dans le renforcement des capacités dans la gouvernance du domaine agricole en 10 secondes?
Oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'amélioration de la gouvernance. Détournement des fonds, c'est quand même trop dit. Je n'en connais pas, je n'ai pas suffisamment la preuve. Mais on a beaucoup de travail qui s'est fait. Il y a les groupes thématiques agriculture et développement rural. Et je voulais dire à celui qui a parlé de la décentralisation, à l'heure actuelle, il faut savoir aussi la place du gouvernement provincial. Parce que l'agriculture est un secteur décentralisé. Et aujourd'hui, le gouvernement provincial a quand même un rôle très important à jouer.
Merci beaucoup, professeur Michel Dissonama Asindo. Vous êtes l'assistant du représentant des FAO ici en RDC, mais aussi chargé de programme, professeur à la faculté d'agronomie à l'Université nationale pédagogique. Merci de nous avoir accordé de votre temps et merci aux auditeurs.
Merci.
On se retrouve demain, mercredi à 10h30 pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe de production, Jean-Claude Charlay, qui a la mise en monde. Je lui fais à assurer le standard, Gir Longuembo, et qui a la réalisation et coordination. Bureau de la Mégine va présenter cette émission qu'on va retrouver sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.